l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Cela fait plus d'un an que le Covid-19 contraint la vie quotidienne des touristes coréens. Notamment, les amateurs de voyage en souffrent parce qu'ils ne peuvent plus partir en voyage à l'étranger quand ils veulent. Alors, lorsque cette crise sanitaire touchera à sa fin, où veulent-ils se rendre en priorité? Selon une enquête, ils préfèrent des destinations proches comme Guam, le Vietnam, le Japon et Taïwan. Une agence de voyage en ligne a publié une analyse des acheteurs des billets qu'elle a vendus en mars dernier. Ces billets sont valables pour un an depuis le moment où le voyage à l'étranger deviendra officiellement possible. On pourra les utiliser n'importe quand et les concéder à d'autres. Dans cette étude, le plus grand nombre d'acheteurs, à savoir 34%, ont opté pour Guam comme leur destination. Viennent ensuite le Vietnam et le Japon avec 17% et Taïwan avec 10%. Étant donné qu'ils ne peuvent pas quitter leur pays pour le tourisme depuis longtemps, les lieux de villégiature où on peut se reposer, séparés de la vie quotidienne, sont les plus appréciés. D'autre part, les destinations proches, dont le trajet ne dure pas plus de 2 heures, sont également convoitées. C'est le cas du Japon et de Taïwan, qui permettent de voyager sans consacrer beaucoup de temps, tant pour les préparatifs que pour le séjour. Pour les salariés en particulier, cela permet de partir sans utiliser leur congé annuel et d'assouvir facilement leur désir de voyage. Pour ce qui est de la durée de séjour, plus de la moitié des acheteurs ont choisi 3 jours. Viennent ensuite 5 jours et 4 jours. Et 76% ont acquis plus de 2 billets. Cela s'explique par le fait qu'ils ont envie de voyager plusieurs fois pour une courte durée afin de compenser leur confinement à l'intérieur du pays pendant longtemps. Plus précisément, quelles sont les villes les plus populaires par région? Pour le Vietnam, Taïwan et le Japon, ce sont Danang, Songsan et Sapporo. Un matin, vers 5 heures, devant un gymnase municipal à Séoul, des gens portant un sac de badminton sont arrivés un par un. C'étaient des membres de clubs sportifs qui sont venus pour utiliser des terrains de badminton dans cet établissement qui ouvre à 6 heures. Ce dernier dispose de 7 terrains, mais en raison du Covid-19, le nombre d'utilisateurs est limité. Alors seuls les 28 premiers arrivants peuvent y entrer. 30 minutes plus tard, la file d'attente s'est prolongée pour dépasser les 50 personnes. À 6 heures, le personnel du gymnase arrive. Il compte 28 personnes selon l'ordre d'arrivée et les fait entrer dans l'établissement. Les autres se plaignent, mais ils doivent rentrer chez eux. Ces derniers temps, une telle situation se produit ici et là dans la région métropolitaine. À cause de l'épidémie, les installations sportives dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, qui étaient ouverts au public, ont fermé leurs portes. Ainsi, les amateurs de sport affluent dans les établissements sportifs publics ou privés qui restent ouverts. Comme la plupart d'entre eux accueillent des utilisateurs ou des réservations par ordre d'arrivée, ils doivent faire la queue dès le petit matin ou taper sur le clavier d'ordinateur le plus vite possible, dès que la réservation en ligne commence. Lorsqu'un terrain de football municipal à Séoul a reçu des réservations en ligne pour les week-ends du mois d'avril, toutes les 24 tranches horaires pour utiliser le terrain ont été prises en 5 minutes après le début de la réservation. D'après un membre du club de tennis, ces derniers temps, la réservation de court est la mission la plus difficile. Si la réservation se réalise par tirage au sort et non par ordre d'arrivée, les demandeurs font travailler leur cerveau au maximum pour augmenter la chance de réussite. Lors du tirage au sort pour un terrain de football dans la capitale, beaucoup de clubs amateurs y ont participé. Or, pour la tranche horaire du samedi matin, qui est très populaire, seule une équipe l'a choisie. C'était parce que les autres l'avaient évité en prévoyant qu'il y aurait trop de candidats pour cette tranche horaire. Du coup, le nombre de candidats pour les soirs dans la semaine, qui ne sont normalement pas très appréciés, était plus élevé. D'après le propriétaire d'un terrain de basketball couvert, les réservations se sont envolées dernièrement, au point que certains proposent même de payer 50% plus cher que le tarif habituel pour utiliser le terrain. Avant, les boîtes collectes de vieux vêtements étaient souvent visibles dans les rues en Corée du Sud. Les gens y jetaient des habits trop vieux ou qu'ils ne portaient plus. Mais maintenant, leur nombre a chuté et il est devenu difficile de les trouver. Ces boîtes ont vu le jour lors de la crise financière de 1997 dans le but d'aider les plus nécessiteux. Cependant, au fur et à mesure que le niveau de vie de la population s'est amélioré, le taux de réutilisation des vieux vêtements ainsi collectés à l'intérieur du pays a beaucoup diminué. Actuellement, 80% d'entre eux sont exportés à l'étranger. Selon la municipalité de Séoul, l'an dernier, le nombre de ce type de boîtes installées dans la ville était de 14 800, soit une baisse de 5 000 par rapport à l'année 2016. Au début, les collectivités locales n'avaient pas le pouvoir de les contrôler. Alors, des entrepreneurs installaient illégalement des boîtes dans les rues pour exporter à l'étranger des vêtements ramassés. Lors d'une enquête réalisée en 2016, parmi les 226 collectivités locales, les entrepreneurs avaient obtenu l'autorisation avant d'installer ces conteneurs dans seulement 11 d'entre elles. De ce fait, le ministère de l'Environnement a recommandé aux autorités locales de prendre des mesures pour les contrôler et cela a fait chuter leur nombre. À présent, des associations de personnes handicapées ou d'anciens combattants gèrent ce type de boîte après avoir conclu un accord avec les collectivités locales concernées. Or, ces derniers temps, ces opérateurs ayant obtenu l'autorisation ont aussi tendance à diminuer leurs conteneurs, car l'exportation de vieux vêtements est devenue moins rentable qu'auparavant. De plus, en raison du coronavirus, les frais de port ont bondi. À Séoul, la collectivité locale qui compte le moins de boîtes est l'arrondissement de Jongno, situé au centre de la ville, avec 175. Avant, il y en avait plus de 300, mais la municipalité a commencé à les diminuer en 2019, car beaucoup estimaient que ces conteneurs défiguraient le paysage. De plus, le problème de dépôt de déchets illicites ne disparaissait pas. Alors, elle a demandé aux entrepreneurs de réduire le nombre de leurs boîtes. Malgré la décroissance des conteneurs, la quantité de vieux vêtements jetés ne cesse de progresser. D'après le ministère de l'Environnement, cette quantité est passée de 175 tonnes en 2010 à 181 tonnes en 2018. Alors, que se passe-t-il pour les vêtements qui ne sont pas jetés dans ces boîtes ? La plupart d'entre eux sont traités comme des déchets ordinaires pour être incinérés. Et une partie est récupérée par des entreprises qui se rendent au domicile des consommateurs et qui les distribuent sur les marchés d'occasion.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Pour cette édition de Séoul le jour du mercredi 14 avril, vous êtes en compagnie de Ko Jung-san. Ces derniers temps, le terme « nongma » est un mot très recherché par les internautes sud-coréens. Il désigne une construction provisoire destinée à garder des matériaux ou des machines agricoles ou à faire une pause durant les travaux de labour. Si on tape ce mot sur un moteur de recherche, s'affichent plusieurs centaines de textes et photos en la matière, intitulés « Une maison de campagne dont on peut profiter en payant le prix d'une voiture de taille moyenne » ou « Une résidence secondaire de 20 mètres carrés ». Certaines d'entre elles sont construites sur deux étages ou décorées de façon raffinée comme des cafés. Pourquoi ces baraques établies sur des terrains cultivés sont-elles aussi populaires? À l'origine, elles ont trouvé une reconnaissance auprès des retraités depuis quelques années en raison de leurs avantages. D'abord, avec une petite dimension d'environ 20 mètres carrés, elles sont adaptées à l'habitation d'un couple âgé. Ensuite, elles permettent d'avoir une résidence à la campagne sans dépenser une grosse somme d'argent. Or, en raison de la crise sanitaire actuelle qui empêche de voyager à l'étranger ou de loger dans un hôtel ou une station de vacances, les tranches d'âge de ceux qui s'y intéressent se sont élargies. Selon un agent immobilier dans une petite ville de province, avant le COVID-19, les retraités étaient les plus nombreux à se renseigner sur ce genre de baraque. Mais dernièrement, les demandes de renseignements par des jeunes couples avec enfants se sont multipliées. Eux, ils ont tendance à les considérer comme des résidences secondaires pour le week-end ou substituts de tentes de camping. Ce type de construction provisoire, fait de conteneurs, coûte de 7 500 euros à 15 000 euros. Comme il est possible de les bâtir sur des terrains cultivés, on peut économiser les frais d'acquisition du terrain. C'est pour cela qu'on les appelle maisons de campagne, dont on peut profiter en payant le prix d'une voiture de taille moyenne. Leur installation ne prend qu'une journée et on peut les revendre après. Si on construit les murs extérieurs avec du bois et renforce l'isolation thermique, leur prix dépasse les 35 000 euros. Contrairement à la popularité croissante de ces cabanes, les plaintes des habitants explosent. Le mois dernier, la ville de Huangshan, dans la province de Kangwon, a effectué un sondage auprès de ses habitants. Dans cette enquête, plus de 80% des interrogés ont répondu qu'ils avaient subi des préjudices à cause de ces constructions. Comme elles ne sont pas classées parmi les installations d'habitation, elles ne disposent pas de canaux d'écoulement séparés, ce qui pose des problèmes de pollution et d'odeurs infectes dégagées par les effluents liquides. Suite à l'afflux des plaintes déposées par ces habitants, la municipalité a effectué des contrôles de ce type de baraque pour déceler 85 constructions illégales. En revanche, certains plaident pour l'allègement de la réglementation en la matière pour l'adapter à la réalité. Selon eux, la demande pour ce type d'établissement a bondi, ce qui reflète la multiplication des citadins qui souhaitent passer du temps à la campagne. Étant donné que la diminution de la population en province est devenue un problème social, la légalisation de ces constructions provisoires par les collectivités locales contribuera au développement des régions concernées. Dernièrement, de nombreux salariés souhaitent avoir une occupation secondaire pour s'assurer une recette supplémentaire. Et le domaine auquel ils s'intéressent particulièrement est la publication de livres électroniques. Par rapport au podcast qui exige une bonne éloquence, au contenu sur YouTube qui nécessite des techniques de montage vidéo, les livres numériques sont plus faciles à produire. Les sujets sont aussi plus variés. Les centres d'intérêt personnel, les compétences particulières ou les passe-temps peuvent être traités. En outre, il existe des plateformes spécialisées dans la production et la distribution de ce type de livres par des écrivains non professionnels. C'est pourquoi ces plateformes sont plébiscitées par ceux qui veulent publier leur propre ouvrage. Kmon est l'une des principales plateformes du genre. Elle aide des gens ordinaires à publier facilement des livres électroniques en PDF et à les distribuer. S'ils ont des contenus intéressants, par exemple le savoir-faire pour augmenter le nombre d'abonnés sur YouTube ou les méthodes secrètes pour réussir à des examens de divers certificats, ils peuvent publier des livres numériques pour en tirer un revenu. Selon Kumong, depuis la propagation du COVID-19, les services d'enregistrement et de transaction de ce type de publication se sont considérablement multipliés. La plateforme Crunchy, quant à elle, n'est pas spécialisée dans la publication des contenus, mais elle se montre très active pour aider ses écrivains inscrits à publier leurs textes. Le projet de publication de Crunchbook en est un exemple. Elle a établi un partenariat avec une maison d'édition afin de publier des contenus de Crunchbook en version papier. Actuellement, 42 000 écrivains travaillent sur cette plateforme et le nombre d'ouvrages en papier qu'ils ont publiés s'élève à 37 000. La publication à la demande attire également l'attention. Il s'agit de publier des livres en papier sans intermédiaire de maison d'édition. Selon cette méthode, si un client achète un texte d'un auteur présenté dans la section de la publication à la demande d'une librairie en ligne, une plateforme le publie en version papier pour l'expédier à l'acheteur. D'après un représentant de ce secteur, depuis la propagation de la pandémie, l'occupation secondaire et la liberté économique sont devenus de nouveaux mots-clés de la société sud-coréenne. Dans ce contexte, aux côtés des créateurs YouTube et des sites communautaires, les ouvrages auto-édités ou la publication des livres électroniques retiennent aussi l'attention. Par conséquent, les plateformes qui facilitent la publication d'ouvrages par des individus émergent comme un moyen pratique et utile. Un paysage paisible avec des rizières et des champs qui s'étend au loin et des personnes âgées réunies dans un pavillon pour discuter. C'est l'image qui vient à l'esprit quand on pense à un village à la campagne. C'est un paysage romantique à première vue, mais si on l'observe de plus près, ce n'est pas toujours le cas. Dans les années 60 et 70, les jeunes dans les petits villages agricoles sont partis pour les grandes villes pour trouver du travail et leurs parents y sont restés. Avec le temps, ces derniers ont vieilli et sont décédés, laissant leur maison vide. Le village de Chungni, dans la province de Chungcheong du Nord, en fait partie. Il y a 5 ans, il y avait des vieilles maisons délaissées pendant plus de 10 ans dans toutes les ruelles. Elles donnaient une ambiance morose dans tout le village, ce qui faisait grimacer ses habitants. Maintenant, la situation a changé. Grâce à 2 projets de renouvellement, le village de Chungni a complètement changé. Il s'agit des projets Nouveau jardin du village et maison de citadins de retour à la campagne. Le premier, mené par le ministère de l'Aménagement du territoire et des transports, consiste à démolir de vieilles maisons vides pour les transformer en jardin potager ou en parterre. Dans le cadre de ce plan, le centre municipal du village a été remodelé et des réverbères et des caméras de surveillance ont été installés afin d'améliorer la commodité et la sécurité des habitants. Quant au dernier, il s'agit de soutenir les citadins qui souhaitent s'installer à la campagne pour vivre comme des agriculteurs. Pour qu'ils puissent expérimenter la vie rurale avant d'emménager, on leur loue un logement provisoire pendant 6 à 12 mois, un loyer modeste d'un peu plus de 100 euros par mois. Depuis l'achèvement des projets, le village accueille plus de touristes. Et le plus important, c'est le fait que sa population a augmenté. Ce chiffre est passé de 125 en 2012 à 150 cette année, contrairement aux autres villages agricoles qui voient diminuer sans cesse le nombre de leurs habitants.
Bonsoir à toutes et à tous. Le cinéaste Lee Junik a été très clair en introduisant son nouveau film The Book of Fish. C'est une erreur que de faire l'histoire en se focalisant uniquement sur des figures et des événements spectaculaires, dit-il. En examinant des personnalités anonymes et rebelles d'une époque, on comprend mieux ce qui s'est réellement passé. Bref, le réalisateur sait de quoi il parle, lui qui a déjà trop donné, avec des hauts et des bas, dans les Heritage Films. Il reste à la recherche de sujets uniques capables de révéler l'histoire profonde de la Corée et une pensée libertaire originale longtemps occultée. C'est ce que nous allons voir. Le contexte de l'histoire se joue autour des répressions antichrétiennes de la dynastie Joseon. Cette répression, souvent violente, était aussi une manière de stopper l'avancée des idées venues d'Occident, dans la presqu'île gardée recluse par ses dirigeants de la classe aristocratique. Au début du XIXe siècle, Jong Yak-jun, interprété par Sol Kyung-gu, le frère cadet d'un célèbre érudit confucianiste de l'époque, est accusé d'occidentalisme et de christianisme. Affublé du titre de traître, il est envoyé en exil sur la pauvre île de Hoksan, dans le sud-ouest. Là, il rencontre un jeune pêcheur nommé Chang-dae. Ce dernier, grand connaisseur en poissons, va lui inspirer la matière de son livre sur la pisciculture. C'est aussi une manière pour lui de revenir à sa théorie de l'enseignement par la pratique, en opposition au métaphysicien néo-confucianiste dominant. De son côté, Chang De, qui est un personnage à peine mentionné par le vrai John Yakchon, mais développé par le film, est un passionné de confucianisme. Il veut apprendre et monter en grade. Les deux hommes vont s'apprivoiser mutuellement peu à peu. Yijunik ne se contente pas de montrer la vie quotidienne des deux anti-héros de son film. Il y inclut de nombreux poèmes du célèbre frère aîné de John Yakchon, Jong Yak-yong, alias Dasan. Ce dernier aussi est comme son frère en exil à la même époque. Il apprenait le Silak, c'est-à-dire un retour à la pratique contre les métaphysiciens néo-confucianistes qui dominaient l'idéologie officielle de l'époque. Il prônait également une sorte de communalisme opposé au centralisme étatique. Tout cela se retrouve à travers ses poèmes qui, souvent en sous-texte, suggèrent les troubles et conflits idéologiques de l'époque. Ce n'est pas la première fois que Yijunik approche des poètes rebelles. Citons Dongju puis Pakyol durant la colonisation nippone, qui sont les anti-héros de ses films précédents. C'est probablement pour préserver le sérieux et la profondeur des discussions poétiques que le film choisit le noir et blanc, qui, de nos jours, crée une distance par rapport à l'illusion cinématographique. Et ceci même si le cinéaste est conscient de prendre des risques, tant le noir et blanc est mal aimé par le public sud-coréen. D'un côté, Lee affirme que l'absence de couleur permet de se concentrer sur les émotions des acteurs, aux dépens du décorum. De l'autre, il affirme aussi que l'absence de couleur reflète cette époque austère du pays du matin clair. Il avait déjà utilisé en arguant des mêmes raisons le noir et blanc pour son film « Dongju », qui avait, malgré tout, été un petit succès. Notons que l'absence de travail sur les couleurs permet de tourner à moindre coût, et cet aspect économique est important pour l'indépendance du réalisateur. En faisant ce film, Yijunik éclaircit sa démarche parfois confondue avec celle des Heritage Films, brodant un roman national pseudo-historique. Son film célèbre, The King and the Clown, était bien un hommage aux artistes rebelles à la royauté, et non une lecture révisionniste de la monarchie dans de nombreux nouveaux habits, comme on a pu le croire. The Throne, un autre film historique à succès du réalisateur, était également une critique du roi et des aristocrates. Et l'érudit confucianiste de The Book of Fish ne fait que transformer la critique en proposition positive. La création d'une société sans roi ni maître, autogérée par les individus eux-mêmes. Si le personnage de Chang De, interprété par la star montante télévisée Byeon Yo-han, issu de l'imagination de Yijunik, ce dernier s'en sert pour faire passer son message. Les connaisseurs du christianisme noteront que la référence au poisson est un symbole chrétien classique. Un autre aspect politique est la considération extrême apportée par l'érudit aux classes prolétaires, considération qui s'oppose aux ambitions du petit pêcheur, en qui on peut voir l'écho actuel des jeunes générations néo-conservatrices élevées dans le culte de la réussite éco-médiatique et l'esbroufe sociale. Mais le film n'est pas si sérieux que cela. L'humour reste de mise, comme souvent dans les films de Yijunik, qui n'en finit pas d'étonner son public.
Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Jang-sun avec Oh Ha-yeon à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée.